Voilà, on va partager quelques versets dans l'Écriture maintenant. Et ça va faire écho un petit peu à ce que je vais voir avec vous. Dans la deuxième épître de Pierre, nous allons commencer notre méditation par ces quelques lignes. Deuxième épître de Pierre, deuxième lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 3 et au verset 1er. L'apôtre Pierre a écrit à des croyants qui étaient... finalement dispersé en différents endroits. Il a fait circuler une lettre d'encouragement pour leur parler de la miséricorde de Dieu. Et puis il va revenir sur un élément important, me semble-t-il, quelque chose qui a besoin d'être peut-être éclairé pour vous cet après-midi. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 1er. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, mais disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et là, le texte qui m'intéresse. « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Amen. » Certains ont cru voir dans le message de la Bible beaucoup de contradictions. J'entends par là, vous parlez que Jésus revient, vous dites qu'il est à la porte, vous dites qu'il est là bientôt, mais excusez du peu, ça fait 2000 ans, et les choses, loin de s'arranger, elles s'enveniment. Ça, c'est un discours que l'on entend, et finalement que l'on peut entendre, bien évidemment. En même temps, on parlera d'un message de paix, d'un message de réconfort, d'un message de grâce, d'un message de bénédiction. Et depuis 2000 ans, les choses ne font que se dégrader. Et ça va de pire en pire. On le voit malheureusement. Et même si on n'a pas atteint les niveaux de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième, quelque part, cette guerre qui se trame, elle est quand même mondiale malgré tout, parce que dans le monde entier, on voit bien que les choses vont mal. Alors, ça peut donner du grain à moudre, forcément, à qui s'interroge sur la réalité de ce message. Vous le dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on a une indication qui, me semble-t-il, est importante. Dans les derniers temps, nous avons lu qu'il viendra des moqueurs avec leur raillerie et toutes sortes de convoitises, préférant vivre, on va dire, d'une manière très très terre à terre, et pas du tout chercher les choses spirituelles, ça les intéresse peu. Alors ils vont sauter sur l'occasion, et ils vont dire, dites, ça fait bien longtemps, hein, je vois pas pourquoi j'arrêterai de vivre comme je vis, vous me dites qu'un jugement vient, mais aucun jugement ne semble arriver. Mais la Bible nous dit que Dieu ne tarde pas, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Que tardes-tu? C'est ce que je voulais, là-dessus que je voulais vous interroger cet après-midi. Que tardez-vous à vous tourner vers Dieu? Vous dites, j'ai le temps, on verra, c'est peut-être pas le moment, il me faut encore un petit peu patienter, j'ai des affaires à régler, et puis ça va pas si mal pour moi pour l'instant. Quand j'irai mal, j'accepterai ce message. Combien de fois l'ai-je entendu? Pour parler de la bénédiction, de la grâce, de la bonté de Dieu à des personnes souriant et me disant « Mais écoutez, ma vie va bien. Qu'est-ce que vous voulez que... » Non, pour moi, tout va bien. Certains ont eu peur, je crois que c'est avant-hier soir ou dans la nuit d'avant-hier à hier, parce qu'il y a un casino de jeu qui a été attaqué à Aix-en-Provence. Vous avez eu vent de cette info? Il y a eu un braquage. Un braquage. Mais quand ils ont entendu des coups de feu à l'intérieur, ils ont tous craint un attentat terroriste. Hein. ils se sont jetés sous les tables, etc. Donc il y a eu beaucoup de blessés par la panique. Et finalement, ceux qui s'étaient dit, on va aller passer une bonne soirée, ça va être agréable, on va dépenser un peu de sous, on en a trop, on ne sait pas quoi en faire, donc on va le dépenser comme ça au jeu. Ça fait sourire quand même. Et donc, ça aurait pu peut-être mal se terminer malgré tout. Certains pensent que, oh, il ne faut pas s'interroger sur les grandes questions de la vie. Le monde est assez triste comme ça. Moi, je vous encouragerais à vraiment vous interroger par rapport à ces choses-là, parce que c'est quand même important. Si la patience est une qualité, on sait très bien que tarder, ça peut devenir dangereux. Certains ont risqué leur vie parce qu'ils ont tardé. Certains ont risqué leur vie parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix quand il fallait le faire, et ils ont dit « encore un peu de temps, j'ai encore un peu de temps ». J'ai dans l'Écriture des exemples qui me viennent à l'esprit. Et un de ces exemples, et pas des moindres, c'est l'exemple du neveu d'Abraham. Alors ça remonte à loin, bien évidemment, pour éclairer votre lanterne. Il s'agit de Lot. Lot, si Lot, ça vous parle un tout petit peu, pas la Lot, hein, mais Lot, monsieur Lot, si ça vous parle à peine, Sodome et Gomorre, ça vous parlera plus certainement. Voilà, donc c'est à cette époque-là, et Lot a vécu dans l'une de ces deux villes. Et puis la Bible dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que cet homme a failli mourir simplement parce qu'il a juste un petit peu trop tardé. Il a failli mourir. Le texte nous dit que dans cet endroit où il habitait sont arrivés deux anges envoyés par Dieu avec comme mission de constater si tout ce qui avait été dit sur Sodome était vrai. Si la manière de vivre, la façon dont ces gens vivaient était une réalité, et ils n'ont pas mis longtemps pour se rendre compte que c'était vrai, que ces gens vivaient dans une débauche absolue. Et d'ailleurs, c'est devenu proverbial, hein, Sodome et Gomorre, on sait tous ce que ça veut dire, enfin je pense, que l'on sait tous ce que ça signifie. Mais Lot, bizarrement, s'est retrouvé là, non pas par hasard, mais poussé par les événements de la vie. Si vous lisez son histoire, vous trouverez ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, mais même un petit peu plus tôt d'ailleurs. Dès le chapitre 16, vous avez son... Oh, même à partir du chapitre 14, du 13, pardon, on en parle. On s'aperçoit que Lot s'est retrouvé à un moment donné à être obligé de faire un choix, mais il n'est pas très sûr de son choix, ou tout du moins, il imagine qu'il va faire le bon choix. Combien de fois ça nous est arrivé ? De devoir choisir. On a souvent dit que certains étaient beaucoup trop jeunes pour choisir et ils ont été mis devant des choix absolus. Il fallait le faire. Alors évidemment, ce n'est pas toujours réussi, mais là, manifestement, il a dû choisir. Son oncle lui a dit « On ne peut pas rester ensemble, il faut qu'on se sépare, tout le pays est là devant nous. Choisis vers où tu t'en vas, j'irai à l'opposé. » Ils avaient beaucoup de biens, beaucoup de cheptels, beaucoup de bêtes. Et donc, le terrain était trop court et les bergers commençaient à se disputer. Et comme ils ne voulaient pas de situation conflictuelle en famille, on se sépare. Et Lot lui a regardé avec ses yeux. D'ailleurs, beaucoup diraient, avec quoi vous voulez regarder, vous, à part avec vos yeux. Donc, il a regardé avec ses yeux. Et il a regardé la montagne et il s'est dit, c'est du caillou, c'est raide, c'est compliqué. Et puis il a vu un peu plus bas vers la plaine que ça s'aplanissait vraiment et que c'était très arrosé, c'était très vert, c'était très beau. Et il s'est dit, dans le fond, si je peux choisir, moi je préférerais aller dans la plaine. Hein. Je pense qu'on aurait tous fait le même choix, quoi. Je préfère aller où c'est plus facile quand même, à moins que vous aimiez les difficultés, mais je vous plains. Sinon, on préfère tous plus ou moins les choses qui seraient assez faciles. Mais il y a une petite annotation. Et il nous est dit que dans ces plaines, des hommes habitaient avant que Lot ne vienne, bien évidemment. Certains avaient installé avaient stoppé leur caravane, avaient installé leur troupeau, avaient bâti leur ville, et notamment les habitants de Sodome et de Gomorre. Et la Bible dit que c'était déjà réputé. À cet endroit-là, les gens vivaient dans une débauche terrible. Ceci étant, Lot y a quand même été. A-t-il été averti vraiment avant ? En tous les cas, si on vous dit « ne touche pas, c'est chaud » et que vous dites « moi, j'ai pas l'impression que c'est chaud » et que vous mettez la main et que vous vous brûlez, normalement, vous l'enlevez la main. Et une fois que Lot est arrivé là et qu'il s'est rendu compte qu'ils vivaient à l'envers, ces gens-là, qu'ils avaient aucune mœurs, aucune moralité, pas de conscience, mais tout fonctionnait de travers, homosexualité, tout ce que vous voulez, il était encore temps de plier la valise et de s'en aller. Hein. Sauf qu'il n'a pas fait ce choix. Quelquefois, on ne se rend pas compte dans quel jus on trempe. On ne se rend pas compte de toutes les conséquences. Certainement, vous connaissez cette petite histoire. Quelqu'un expliquait comment il fallait faire pour cuire une grenouille vivante. Vous amusez pas à faire ça, hein, c'est pas heureux. Hein. Mais il disait, si vous prenez la grenouille et que vous la jetez dans de l'eau bouillante, il y a de fortes chances qu'elle arrive à en sortir. Parce que dès qu'elle va tomber dans l'eau, d'une manière ou d'une autre, elle va essayer de s'agiter et d'en sortir. Par contre, si vous mettez la grenouille dans de l'eau froide, elle restera. Et là, vous allumez le feu, ben, vous allez la griller, elle ne va pas s'en rendre compte. Parce que finalement, c'est petit à petit qu'elle a été malheureusement cuite, petit à petit. Quelque part, c'est souvent ce qui nous arrive. Si on était devant une situation complètement abominable, et totalement insoutenable, on réagirait immédiatement. Et quelquefois, on se laisse avoir parce qu'on ne voit pas les choses arriver. Je prends Lot sous cet aspect-là. Je préfère le prendre sous cet aspect-là, me disant qu'il n'a pas bien tout calculé, tout vu. Sauf qu'à un moment donné, sa conscience s'est réveillée. Et là encore, loin de s'en aller, il est resté, mais la mort dans l'âme. Je vous en prie, si vous êtes dans des situations qui ne sont pas bien, partez. Ne restez pas la mort dans l'âme. Ça sert à quoi de rester la mort dans l'âme? La Bible dit, et c'est l'apôtre Pierre d'ailleurs, dans sa lettre, qui écrit cela, il dit que Lot le juste tourmentait tous les jours son âme à cause de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait dans cette ville, sauf qu'il y est resté. Alors la mission de ces anges était de venir constater en quel état se trouvait la ville, mais c'était aussi pour venir chercher cet homme-là, parce que c'était un homme juste. C'était quelqu'un qui aurait voulu vivre autrement. Maintenant, il semble tenu, il a marié des filles, il a des gendres sur place, il a peut-être monté son commerce, son activité, allez savoir. Bref, toujours est-il qu'il est bien tenu par tout ce qui le retient dans cette ville, et il aura du mal à bouger. Écoutez ce qu'il est dit. Les hommes dirent à Lot, « Qu'as-tu encore ici ? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit, parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais à leurs yeux, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et là, chapitre 19 de la Genèse, verset 16, il est dit « Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. » Cet homme est incapable de faire le choix. Il est incapable de s'en aller. On lui a dit, mais la ville va être détruite, il va y avoir une catastrophe, ça va être quelque chose de calamiteux. Fuis, va-t'en, ne reste pas là. Et il n'y a rien à faire, il tourne en rond, il tergiverse, il réfléchit. Il a des filles qui ont été mariées, il a sa maison, il a ses biens, on ne peut pas tout emmener. Il faut partir avec rien, à la limite juste un sac, rien du tout. Il n'arrive pas à prendre la décision. À des moments, je crains que tarder, ça signifie mourir. Si vous tardez trop, vous mourrez. Si vous tardez trop, vous ne vous en sortirez pas. Si les anges n'étaient pas intervenus en sa faveur, mais il mourait avec le reste de la ville. Il n'avait pas atteint une petite localité à flanc de colline, Soar, qu'en se retournant, il s'est rendu compte qu'un feu du ciel est tombé, a embrasé la ville. Il ne reste plus rien. D'ailleurs, certaines données archéologiques vous font retrouver les traces de ces villes-là au bord de la mer Morte, dans le sud. Et il y a dans le sol énormément de minerais qui correspondent à une subite combustion. Donc, même les archéologues sont surpris de se dire « mais c'est bizarre, il s'est passé quelque chose ici ». Il n'y a que la Bible qui raconte ce qui s'est exactement passé. Mais ça a été foudroyant. Hein. Bombe atomique, foudroyant. Ce n'est pas quand vous voyez la bombe tomber qu'il faut vous en aller, c'est trop tard. Rattrapé par le souffle, vous mourrez. Et cet homme, avec sa femme et ses deux filles qui lui restaient, qui n'étaient pas encore mariées, ont failli périr parce qu'il tardait. Il a tardé, il a eu du mal. Sa vision des choses, je pense, était faussée. Et dans le fond, finalement, il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Il avait besoin d'être aidé, il avait besoin d'être pris par la main, si vous voulez. Oh, je peux même dire, il avait besoin d'être saisi. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il vous arrive quelque chose de saisissant pour que vous arrêtiez de tergiverser, de tourner en rond? Est-ce qu'il faudrait qu'il arrive quelque chose de terrible, de violent, pour que tout à coup, ça éveille en vous l'instinct de survie et que vous disiez, je ne peux pas rester là, il faut que je fuis maintenant. Cet homme n'est pas parti de son plein gré, même s'il voulait le faire, il n'y arrivait pas. Mais grâce à Dieu, il a été emmené vers la sécurité. Il a été sorti de la ville. Et il n'y a que Dieu qui pouvait faire cela encore. Quelqu'un a dit un jour, il avait mis cela en chanson, « Partir, c'est mourir un peu. Mais en l'occurrence, rester, c'est mourir complètement. » Bah, des deux, il faut choisir le moindre. Finalement, il serait resté, il était complètement mort. Il n'y avait aucune solution pour lui, pauvre homme. Le salut de sa vie et le salut de son âme a résidé uniquement dans la fuite. L'apôtre Pierre rappellera aussi ceci en disant, en considérant le monde tel qu'il était, et il dira ceci, fuyez l'idolâtrie qui court dans le monde. Alors ça c'est un exemple, mais ce n'est pas le seul, il y a d'autres exemples de personnes qui tardaient, mais là il y avait de bonnes raisons pour lesquelles ils tardaient, et non pas des raisons faussées, mais il y avait un problème, il y avait un vrai problème. Un peu plus tard dans l'histoire du peuple d'Israël, on retrouve le peuple d'Israël, donc les enfants des enfants, et on arrive jusqu'à la génération de cet homme qui s'appellera Jacob, qui aura 12 enfants. Et à un moment donné, dans le pays où il vit, en Israël, il y a une immense famine. Alors on épuise toutes les réserves que l'on avait, et à un moment donné, il n'y a absolument plus rien à manger. Il reste, malgré tout, une solution. C'est que si en Palestine, on meurt de faim, en Égypte, il y a énormément de réserves. Un homme a été prévenu par Dieu qu'il fallait faire des réserves pendant 7 ans. Et il les a faites. Et ça a produit. Et au bout de 7 ans, il a fallu revenir à la réalité. La famine est là, la famine pèse sur toute cette région-là. Alors on va venir de loin pour acheter de la nourriture. Et cet homme, Jacob, enverra ses enfants chercher de la nourriture. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un de ses enfants que ses autres fils ont déclaré mort et bien vivant, et que c'est lui qui est gouverneur de toute l'Égypte, c'est le fameux Joseph. Quand Joseph va revoir ses frères venir chercher de la nourriture, il va les reconnaître, eux ne le reconnaîtront pas, et puis il va s'en suivre tout un tas d'épisodes, vous pourrez lire cela dans les chapitres 37 jusqu'à 45 du livre de la Genèse. Mais il est un événement important et c'est sur celui-là que je m'arrêterai. À un moment donné, cet homme qui semble être un étranger, Joseph, interroge ceux qui sont devant lui, ses propres frères, en demandant « Est-ce que vous êtes tous là? Est-ce que vous avez d'autres frères, d'autres sœurs, etc. ?» Et en fait, il se trouve qu'il en restait un à la maison, le petit dernier, que le père n'avait pas voulu envoyer, de peur qu'il ne meure lui aussi. Et puis, le chef de l'Égypte dira « Si vous voulez me revoir, si vous voulez à nouveau manger, si vous avez besoin de nourriture, il faudra revenir avec celui dont vous me parlez, puisque vous me dites que vous en avez un, mais je ne le vois pas. » Il avait envie de revoir son frère. Ils vont rentrer à la maison, et puis au bout de quelque temps, ils ont mangé tout ce qu'ils avaient été chercher, et leur père leur dit « Retournez en Égypte, il faut aller chercher de la nourriture. » Et l'un des fils, Ruben, dira « On ne peut pas y aller, ou alors il faut qu'on emmène Benjamin avec nous. » Et le père va dire « Pourquoi vous allez l'emmener avec vous ?»« Ah, ben parce que le gouverneur d'Égypte nous a dit qu'il nous ferait audience, on pourra le rencontrer si on y va avec notre petit frère. » Mais pourquoi vous lui avez dit que vous aviez un frère ? Et des fois, on se met dans des situations bêtes, quoi. Et ils vont dire « Écoute, on n'en sait rien, il nous a interrogés. » On n'était pas à l'aise, il se passait des choses bizarres là-bas. Il nous a interrogés, c'est d'ailleurs bizarre, il a vraiment insisté, comme s'il nous connaissait, hein, pour de bon. Et puis le fait est que le père a dit non, hors de question, déjà que son frère est mort, c'est le gouverneur d'Égypte, lui ne le sait pas. Déjà que son frère est mort, je n'ai pas envie de partir dans la mort avec le chagrin de perdre encore son cadet, non, hors de question. Et les autres enfants ont dit, ben d'accord, on reste là. Sauf qu'au bout d'un moment, vous raclez les tiroirs et vous raclez les fonds de tiroirs. Et après avoir raclé le tiroir et le fond, il y a quoi en dessous? Il n'y a plus rien. Et il n'y avait plus rien. Et le père a oublié ce qu'il avait dit. Et il retourne vers ses enfants et dit, vous êtes encore là? Je vous ai déjà dit de retourner en Égypte chercher à manger. Et là, à nouveau, un des enfants de dire, mais on ne peut pas y aller. Pourquoi vous ne pouvez pas y aller? Parce qu'il faut qu'on y aille avec Benjamin. Mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Et là, finalement, il va être dit une grande vérité. Un des enfants va dire, écoute, tu ne veux absolument pas le lâcher, tu dis que tu as peur de le perdre, mais moi, je défendrai sa vie, je m'en occuperai, il faut que tu le fasses. De toute façon, on n'a pas le choix. Et écoute bien, si tu nous avais laissé faire, au début où on te l'a dit, on serait déjà venu, on aurait déjà pu faire deux fois l'aller-retour. On serait déjà de retour depuis longtemps. Parce que tu as tardé ta décision, regarde dans quel état tu nous as mis. Regarde dans quelle situation nous nous trouvons maintenant. Ça m'a interpellé quand même cette remarque qui a été faite. Si tu nous avais laissé aller, on aurait été déjà deux fois de retour. Finalement, il faut prendre le problème du bon côté. Et là, tout s'arrangera. Le problème de ces garçons, c'est que ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont même des criminels, et leur père ne le sait pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais dévoilé cette face-là devant leur père. Je dis que ce sont des voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé la liberté de leur jeune frère en le vendant à une caravane qui passait par là et qui s'en allait vers l'Égypte. Il n'avait que 17 ans. Et puis ils ont fait comme s'il était mort. Ce sont des menteurs parce qu'ils rentrent à la maison et ils vont dire « on a trouvé ça dans les champs, la tunique de leur frère qu'ils viennent de vendre. Ils avaient saigné un animal trempé dans le sang en disant « est-ce que ce n'est pas celle de Joseph? Il est peut-être mort. Hein » Ils ont menti à leur père. Et puis c'est criminel parce qu'ils ont laissé vivre leur père presque 20 ans dans cette situation-là. Vous vous rendez compte? C'est criminel d'agir comme ça. Sauf que pas vu, pas pris. Mais là, à un moment donné, vous allez être confronté à la réalité. Et on se trouve devant cette réalité. Finalement, ils refusaient d'affronter leurs erreurs. Ils préféraient ne pas se regarder visiblement en face. Et ils n'étaient pas prêts à écouter leur cœur. Ils n'étaient pas prêts à écouter leur conscience. Mais vous savez, tarder, c'est souffrir. Si tarder, ça peut vous amener à la mort. Tarder de prendre une décision, de faire un choix, d'aller comme vous êtes devant Dieu pour dire, bon, il y a des choses que je dois t'avouer, il y a des choses que je dois te dire. Si vous tardez, vous allez souffrir encore, encore, encore. Tant qu'ils n'ont pas avoué la vérité à leur père, mais le père est complètement à plat, je ne suis pas persuadé qu'ils dorment bien tranquilles, eux non plus. Et puis, finalement, le père les laissera s'en aller avec le dernier. Et quand ils vont se retrouver en Égypte, là, on va dire que ça a assez duré. Et Joseph va se révéler à tous ses frères. Je ne vous dis pas en quel état de choc ils ont dû être à ce moment-là. Sauf que Joseph va dire, est-ce que mon père vit encore? Il ne l'a pas vu depuis 20 ans. Oui, il vit encore. Ramenez-le ici, la famine va durer. Ça va durer un bon moment. Ramenez-le ici, on va vous aménager un terrain, on va vous aménager un endroit où vous allez pouvoir rester et vous vivrez de génération en génération à cet endroit-là. Ils y sont restés 400 ans, donc un bon moment. Vous pourrez rester là. Alors eux, ils sont tout excités. Et puis ils rentrent à la maison en disant, mais c'est génial ce qui nous arrive. Et puis il y en a peut-être un qui s'est tourné vers son frère en disant, on a quand même un problème, hein. Mais lequel? Il va falloir qu'on dise à notre père qu'en fait, il n'est pas mort. Ah. Et ouais, c'était pas évident. Hein. Alors, ils l'ont fait. D'ailleurs, ils sont revenus avec des chars, avec plein de choses, parce que Joseph avait mis le paquet hein, pour convaincre son père. Il est dit ceci. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Finalement, vous ne l'auriez pas cru, vous aussi, non? Dites la vérité, vous ne l'auriez pas cru, c'est impossible à croire. C'est souvent comme ça qu'on réagit avec le message de la Bible. Dieu peut te guérir, Dieu peut te sauver, Dieu peut changer ta vie. Tu es dans les problèmes jusque par-dessus la tête. Demain, tout sera changé. Et là, vous n'arrivez pas à le croire. Le cœur est froid. Vous dites, mais c'est impossible. humainement parlant, c'est pas possible. Alors son cœur reste froid, il ne les croyait pas. Alors ils vont insister et ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Entre parenthèses, Joseph leur avait dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Vous m'en vouliez à mort, regardez ce que Dieu a fait pour moi. Mais je ne vous en veux pas. Il a fallu tout dire, hein, au père, il a fallu tout dire. Hein. Ils ont bien dû, et quand le père a dû dire, mais c'est quoi le vêtement que vous m'avez ramené plein de sang, ça veut dire quoi? Ils ont bien dû avouer qu'ils avaient menti, qu'ils avaient maquillé sans crime, une bête sauvage qu'il avait tuée, etc. Bref, il a bien fallu expliquer tout ça. Je pense qu'il ne devait pas être très fier quand même. Le fait est que la vérité, ça rapporte toujours. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Né Israël, c'est son deuxième nom, dit « C'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai, je le verrai avant que je meure. » Amen. La vérité les a tous affranchis ce jour-là. Et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité que vous avez besoin de dire aux autres. C'est d'être vrai devant Dieu. Ça va vous libérer. Ça va vous affranchir. Ça va vous donner un avenir. Vous tardez, vous êtes malheureux. Vous hésitez encore, vous rongez le sang, vous tournez le sang. Ça va mal au-dedans de vous. Vous ne voyez pas de solution, ça ne s'arrange pas. Il n'y a rien qui tourne rond. Cet après-midi, faites la paix avec Dieu. Je vais terminer sur cette notion-là. Lorsque l'apôtre Paul est devenu chrétien, il n'est pas né chrétien, il est devenu chrétien, on s'aperçoit que son expérience a été fulgurante. Alors qu'il est déjà adulte et bien, bien installé dans la société juive de son temps, il nous est dit qu'il persécutait à mort le christianisme, convaincu que c'était une folie, que c'était une hérésie. Donc, il jetait en prison les chrétiens, il en a maltraité. Et même quand Étienne, premier martyr de l'Église chrétienne, a été lapidé, il a approuvé le meurtre de cet homme. Donc, c'est quelqu'un qui respire le sang, la menace et le meurtre, dit la Bible. Et un jour, Dieu l'arrête. Alors qu'il est en route vers la ville de Damas, Dieu l'arrête. D'une manière violente, il est à cheval, une grande lumière resplendit, il est précipité de cheval à terre, et quand il se relève, il est aveugle. Il n'a pas été aveuglé simplement par la lumière un moment, mais il est littéralement aveugle. Et une voix se fait entendre. On entendra du bruit, c'est les témoins qui disent cela. Une voix se fait entendre et lui demande de s'en aller dans la ville de Damas et d'aller dans une rue, de s'installer quelque part. Et pendant quelques moments, il va rester chez quelqu'un pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'un homme soit envoyé par Dieu à sa rencontre. Cet homme s'appelle Ananias, et Dieu va dire à Ananias, tu vas aller dans telle rue, et tu vas aller rencontrer un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Et tu vas lui parler ainsi, Saul mon frère, Jésus-Christ te guérit. Alors, mettez-vous à la place d'Ananias. Il a certainement entendu parler de cet homme-là. Il doit bien savoir qu'il est venu avec plutôt l'envie d'en découdre avec des chrétiens, c'est un piège, c'est quoi, etc. Il ira quand même. Et quand il rencontrera ce persécuteur, ce meurtrier, cet assassin, il ne va pas l'insulter, il va juste lui dire ce que Dieu lui avait demandé de lui dire, « Saul, mon frère, Jésus-Christ te guérit. » Quelle parole de foi. Ça a tout transformé dans la vie de cet homme. Ce jour-là, il a été délivré, ses yeux se sont rouverts. Et quelques instants après, il a été baptisé. Mais ce qui m'importait était dans le témoignage de Paul. Je conclus avec ces mots. Il est dit ceci, c'est Paul qui raconte l'histoire. Quand Ananias le trouve, il lui dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. » Je vous dirai la même chose cet après-midi. Que tardez-vous? Il y a des expériences à prendre en considération. Il y a des moments de la vie qui sont plus importants que d'autres. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des choix à faire sans regret. J'aime beaucoup le témoignage de ce missionnaire qui est mort en mission et qui, avant de partir, a liquidé tous ses biens. C'est un homme riche, un lord anglais. Et cet homme écrira ceci: « Je pars sans regret. » Aucun remords, pas de regret. Parce que pour lui, la plus belle des vies, elle était devant et elle était au service de Dieu. Je puis vous garantir que quand on s'engage avec Dieu, il n'existe pas de regret. Seul regret, ce serait d'avoir tellement tardé. Le seul regret, ce serait de le faire si tard. Mais il n'y a pas de regret. Vous pouvez, cet après-midi, faire le même choix. La vraie joie, la vraie paix, la vraie vie, c'est Dieu qui la donne. Vous ne l'avez pas trouvé, la preuve. Il n'y a que Dieu qui peut vous donner cela. La réussite, c'est Dieu qui la donne également. Lui, en parlant de Dieu, il n'a pas hésité quand même, il n'a pas tardé. Quand il a fallu venir sauver l'humanité, il a accepté d'aller mourir sur une croix. Il a accepté de livrer sa vie. Il n'a pas tardé, hein. Il n'a pas dit « Oh, je ne sais pas, je ne suis pas bien sûr, j'hésite encore un peu, ça va faire mal. » Il y a été. Pour vous, pour moi, il a accepté de mourir. Alors, ne tardez pas. Tarder, c'est souffrir. Tarder, ça peut vous amener à la mort. Cet après-midi, engagez-vous avec Christ. Faites la paix avec Dieu. Avouez-lui vos fautes. Dites-lui tout ce qui ne va pas. Apportez-lui tout simplement votre cœur tel qu'il est. Et le Seigneur le changera. Et il vous donnera la vraie liberté. Amen. On peut prier pendant quelques instants. Seigneur, nous venons devant toi et nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Nous te louons pour ta fidélité, nous te remercions pour ta bienveillance. Je veux te demander ta grâce, je veux te demander ton secours. Parmi nous, dans cette salle, il y a des personnes qui ont besoin de paix, ils ont besoin de grâce, ils ont besoin d'être délivrés, ils ont besoin d'être pardonnés. Il faut qu'il se passe quelque chose dans leur cœur. Alors nous te prions, Seigneur, de faire ton œuvre et de sauver encore ceux qui n'ont pas fait l'expérience du salut. Je prie vraiment qu'il y ait une conviction de péché qui s'installe dans un cœur, dans une âme, qu'il se passe quelque chose là maintenant, quelque chose de concret, de réel. Merci d'agir, Seigneur. Merci de te glorifier. Merci de manifester ta bienveillance et d'apporter la liberté dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi. Nous te remercions pour ce que tu fais, Seigneur. Ne tarde pas dans l'accomplissement de toutes tes promesses et apporte la paix. Apporte la liberté et change tout, je t'en prie, au nom de Jésus. Amen.